De Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate et ancien directeur du Monde, que vous retrouvez demain à 8h30 avec Jean-Claude Casanova pour l'émission.
8h, pardon David.
C'est 8h.
C'est 8h.
À chaque fois.
Alors on va dire les choses, je n'arrive pas à me souvenir de cet horaire, je ne sais pas pourquoi je fais un blocage. Tout à l'heure je l'ai bien annoncé, j'ai dit que c'était 8h. Et puis là je me suis dit, tu t'es trompé, j'ai dit 8h30 et vous me corrigez, c'est 8h. J'avais donc raison. Tout en me donnant tort, vous serez accompagné de Jean-Claude Casanova, donc des 8h.
Et d'une cohorte d'auditeurs.
Merci à tous les deux d'être là. J'aimerais qu'on commence avec Emmanuel Macron. Vous l'avez regardé hier, j'imagine, à la télévision. Ce qu'il a dit, vous a-t-il permis de préciser ses intentions, sa stratégie? Cela vous a-t-il éclairé? Vous semble-t-il avoir enfoncé le clou de ce qu'il avait déjà déclaré et qui avait fait couler tant d'encre et tant de commentaires?
Oui, il a dit exactement, il a assumé complètement son inquiétude sur la situation russe et la nécessité pour la France et pour l'Europe de se préparer au pire, même s'il ne souhaite pas le pire. Ce qu'on a pu apprendre hier, je l'ai trouvé étonnamment clair, pédagogue, maîtrisé.
Et prudent.
Prudent, sans enjoliver la situation. Il dépeint quand même un paysage de progression de la Russie un peu terrible, et aussi pour faire comprendre à l'opinion qu'il y a vraiment danger, qu'est-ce qui se passerait en France pour les Français si jamais Vladimir Poutine gagnait l'Ukraine. Donc moi j'ai trouvé que c'était un exercice pas très joyeux, mais bien fait et très clair, très pédagogue.
Sur la forme, Jean-Marie Colombani, il y a quelque chose qui m'a frappé. À chaque fois qu'on s'attendait à entendre Poutine ou Vladimir Poutine dans la bouche du chef de l'État, on a eu le droit au régime du Kremlin.
Oui, c'est vrai. Il fait un peu comme Vladimir Poutine, qui ne nomme jamais ses adversaires. Il ne nommait pas Navalny. Il était interdit. Donc, il parlait de gens d'opposition, d'extrémistes, etc. Et il ne nomme pas ou il ne nommerait pas, mais il nomme de moins en moins Macron. C'est la technique de Poutine qui était renvoyée d'une certaine façon à l'expéditeur. Mais sur le fond, en dehors de la forme qui était très bonne, sur le fond, c'était une intervention bienvenue. C'est une intervention bienvenue parce que l'opinion est en train de s'éloigner et on voit bien que plus la guerre dure, plus une partie de l'opinion peut se détacher. Alors le soutien à soutenir l'Ukraine, oui, mais augmenter notre soutien, c'est là que l'opinion commence à fléchir ou à flancher. Et donc, il était important donc qu'il remette les choses en perspective. Et pour comprendre son attitude, je pense qu'il faut intégrer deux éléments. Un, qu'il a évoqué lui-même en disant, mais désormais il y a un consensus partout en Europe, aux États-Unis, sur l'idée que les choses peuvent s'aggraver. Et peuvent s'aggraver avec deux facteurs qui sont la réélection de Poutine, qui va intervenir ce dimanche, et donc une possibilité à nouveau de fuite en avant de la part de Vladimir Poutine, et deux, la possible élection de Donald Trump. Donc ce sont deux facteurs qui pèsent très lourdement et qui inquiètent. Et donc on voit bien que le président de la République, avant toute chose, il est lui-même inquiet. Ça, c'est un élément. L'autre élément qui explique sa prise de position et ce qu'il a dit, c'est qu'il a très bien rappelé qu'au point de départ, il fait tout pour que ces événements ne surviennent pas. Au point qu'on lui reproche sa naïveté vis-à-vis de Vladimir Poutine en disant, mais à chercher tout le temps à vouloir discuter avec lui, c'est peine perdue, vous n'y arriverez pas parce que il ne comprend que le rapport de force, ainsi de suite. Et là, il explique qu'il a vraiment tout tenté, tout fait pour éviter que l'on en soit là. Donc, ces deux facteurs sont à prendre en compte pour comprendre exactement ce qu'il a expliqué hier.
Cécile Cornudet, je me mets à la place d'une partie des Français qui ont écouté ou regardé le président de la République, ou pire, qui l'ont ignoré. Alors, on a dit, effectivement, ça clarifie les positions des jours précédents. C'est une clarification bienvenue. Jean-Marie a dit, comme ça, c'est clair, c'est une intervention claire et maîtrisée. Ce qui peut inquiéter ou ce qui peut questionner, c'est l'indifférence d'une partie des Français, voire l'hostilité d'une partie de l'opinion qui dit ça n'est pas notre guerre, nous ne sommes pas concernés, ou il y a des calculs tactiques et préélectoraux dans cette position du président de la République. Que peut-on dire? Que peut-on en dire?
Deux choses. D'abord, c'est vrai que c'est une vérité que beaucoup n'ont pas envie d'entendre et que voilà, on préfère faire l'autruche et se dire non à la guerre. Après, ça, c'est effectivement pourquoi Emmanuel Macron a instrumentalisé cette donne géopolitique à des fins électorales, ce qu'il a quand même fait pour les élections européennes en organisant ce vote à l'Assemblée pour bien montrer que LFI et le Rassemblement National n'étaient pas des patriotes et jouaient contre le pays. Donc, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation. J'ai remarqué qu'hier, quand même, il allait moins loin. C'est commencé à être reproché à son parti de faire campagne finalement pour les européennes que sur ça, sur il faut se préparer à la guerre, regardez, le RN ne veut pas, c'est donc ils sont pas patriotes, que c'était trop défensif, trop noir, trop pessimiste, alors que normalement voilà, Emmanuel Macron, c'est l'Europe conquérante, et qu'il fallait venir à un message plus européen et plus positif. Donc je pense qu'ils sont en train de changer. Moi, je l'ai senti cette semaine. Ils vont continuer à marteler, à cibler le RN, mais quand même proposer un projet européen. Et hier, c'était vraiment à la marge qu'il a dit les extrêmes. Voilà, ça a clarifié, c'est bien, mais il les a pas nommés. Il a pas nommé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc il est un peu en retrait là-dessus. Mais c'est un vrai sujet pour les européennes. Est-ce que les gens, s'ils continuaient à ne faire de cet axe que son axe pour les européennes, est-ce que les gens vont voter contre les ambiguïtés poutinistes du RN, ou est-ce qu'ils vont voter non à la guerre? Et ben, quand vous êtes voilà, français qui n'avait pas envie d'entendre ce message un peu alarmiste, la tentation peut être de voter non à la guerre. Donc c'est à utiliser avec précaution.
Jean-Marie Colombani, est-ce que les Français peuvent voter aux européennes pour modérer l'écart qui s'est creusé entre le candidat Renaissance et celui du Rassemblement National? En clair, est-ce que les Français peuvent dire, bon, le parti de Marine Le Pen en tête, très bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart? Est-ce qu'on peut avoir un réflexe comme ça aux européennes?
Je ne suis pas sûr, parce que les européennes, c'est vraiment une élection particulière. C'est une très bonne photo de l'état de l'opinion, puisqu'on va avoir tous les courants représentés, mais ça n'est pas non plus un scrutin où on cherche le vote utile, parce qu'il n'y a pas à la clé un gouvernement à l'issue de ces élections. Et les Français connaissent peu ou mal l'apport, le rôle de plus en plus important d'ailleurs du Parlement européen, puisque désormais la future commission devrait être l'émanation d'une certaine façon de la nouvelle majorité qu'il y aura au Parlement européen. Et donc ça, je pense que ça n'est pas encore vraiment complètement entré dans la perception des Français. Donc,
oui, puis, c'est une élection où on se fait plaisir en fait.
Oui, et puis par ailleurs, l'écart est quand même énorme. Donc, rattraper ce 10, parfois 11 points, parfois 12 points d'écart, c'est quand même assez considérable. Et la liste de la majorité, entre guillemets, présidentielle, elle va attirer la foudre de tout le monde, puisque ça va être au fond l'ennemi. Même, prenez par exemple Glucksmann, qui mène une liste socialiste, et qui peut être une liste qui récupère une partie de l'électorat, disons de centre-gauche, qui avait pu être tenté de voter Emmanuel Macron. Sa cible à lui, c'est la liste de la majorité. Donc le parti de Jordan Bardella va peut-être passer au second plan, et donc on comprend mieux dans ces conditions le fait qu'il ait été dit, en effet, que s'abstenir, c'était évidemment ne pas choisir la paix, mais plutôt choisir la défaite. Dans un pays qui se plaint souvent de l'insuffisance de démocratie, du fait qu'on ne respecte pas, etc. Là, on a eu une séquence presque idéale. On a eu d'abord l'Assemblée nationale, puis le Sénat, qui se sont prononcés, chose qui n'arrive jamais sur les questions de politique extérieure, parce que c'est, par définition, le domaine réservé du président. Donc là, il y a eu vote, et vote intéressant d'ailleurs, parce que ça montrait bien les positions des uns et des autres. Et ensuite, c'est ponctué par une intervention présidentielle qui redonne les axes stratégiques. Donc, d'une certaine façon, pour le fonctionnement de nos institutions, c'était une séquence particulièrement bienvenue.
Un dernier mot, Cécile Cornudet, puisque l'heure tourne, on a épuisé un tiers de l'ordre du jour. On va avoir Renaissance et le Rassemblement National qui, d'une façon ou d'une autre, vont porter porter vers les élections européennes cette problématique ukrainienne, avec plus ou moins d'engagement, de l'abstention, de la réserve, ou au contraire, faut y aller. Et puis, parlons de la France insoumise, qui, elle, véhicule dans sa liste des préoccupations qui n'ont plus rien à voir avec l'Ukraine, mais qui, à partir de certains des membres qui sont placés sur cette liste européenne, regardent du côté de Gaza, du conflit israélo-palestinien. Chacun a son conflit, chacun a ses priorités.
Tout à fait. C'est pas une bonne élection pour Jean-Luc Mélenchon, pour sa liste de conduite par Manon Aubry. Et du coup, il joue le tout pour le tout, qui est, je consolide mon socle, cet électorat des quartiers. Et donc, sans aucun problème de conscience, il fait une campagne. Enfin, ils font une campagne pro-Gaza ouvertement. Voilà. L'électeur en tirera des conclusions qu'il veut.
Mes amis, je vous dis à la semaine prochaine.
C'est déjà fini.
Le temps passe incroyable. À une vitesse, surtout le vendredi, je trouve. Alors, on va se quitter, puisqu'on a beaucoup parlé de la Russie, on va se quitter avec le meilleur de la Russie, si j'ose dire. C'est sa musique, Moussorgski, la danse des esclaves perses. Écoutez comme c'est joli. Il nous reste la musique pour unir les peuples.